Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Benjamin Bagby.
Bonjour.
Benjamin Bagby, vous êtes à la tête d'un ensemble qui s'appelle Séquentia, que vous avez fondé en 1977 déjà, c'était à Cologne.
Oui, en effet, l'ensemble a été fondé à Bâle, en Suisse, à la fin de nos études, mais on a décidé de déplacer en Allemagne pour profiter de la radio allemande qui a beaucoup soutenu la musique ancienne dans les années 70. Et aussi pour avoir accès aux collègues allemands et aussi néerlandais et belges.
La musique ancienne, la musique médiévale aussi, votre ensemble vous êtes un peu une référence dans ce domaine-là. Et c'est vrai, quand on parle de ce type de musique, il y a évidemment un nom qui vient souvent à l'esprit, c'est Hildegard von Bingen, si on le prononce à l'allemande, qui a été canonisée. Qu'est-ce que cette canonisation signifie pour vous L'expert de la musique, est-ce que c'est juste anecdotique? Est-ce que c'est plus, moins?
C'est plus, parce que le monde entier va maintenant entendre par les médias parler de Hildegard. Elle n'est pas si connue que ça, surtout au dehors d'Allemagne, où elle est très connue, et où les pays germanophones, elle est plutôt connue pour ses œuvres de médecine. Et aussi pour ses œuvres mystiques. Pour la musique, elle est moins connue. C'est juste dans le milieu de la musique ancienne où on connaît un peu ses œuvres. Surtout, il y avait une vague de Hildegard dans les années 90.
Vous précisez que votre ensemble a enregistré...
Oui, on a commencé le projet d'enregistrer les œuvres complètes, qu'on va terminer cette année, j'espère. Et... comme elle a fêté son anniversaire, elle était née en 1098. Et comme l'anniversaire était ronde, comme on dit en Allemagne, on a eu beaucoup de productions, beaucoup de concerts, beaucoup de livres qui sont sortis à cette époque-là. Il y avait une espèce de vagues, c'était trop. Hein. On a eu trop de Hildegard. Vers l'an 2000, on ne pouvait pas absorber plus.
Son œuvre, quelle est la taille à peu près de son œuvre? Il y a plus de 70
Oui, il y a à peu près 75 chants liturgiques ou paraliturgiques, plus le drame en musique, Ordo Virtutum.
Comment vous avez abordé, à quel moment d'ailleurs dans votre parcours, cet étudiant, son nom vous est apparu et par quel, qu'est-ce que ça représentait sa musique avant vraiment de l'approfondir au point de l'enregistrer?
Sa musique était toujours connue dans le monde des études de chant grégorien, de chant ecclésiastique. On connaît les œuvres de Hildegard. ils sont un peu spéciaux. C'est un son, c'est une sonorité, une façon de créer les mélodies qui est extrêmement personnelle. Ce n'est pas la même sonorité que le chant grégorien, par exemple. C'est vraiment la musique contemporaine du XIIe siècle. Elle a créé quelque chose, mais les recherches les plus récentes montrent aussi qu'elle a participé dans une espèce de tradition régionale qu'on trouve dans d'autres endroits, d'autres lieux, d'autres monastères dans le bassin du Rhin. Des mélodies avec beaucoup de similarité avec les mélodies de Hildegard. Ça veut dire qu'elle a fonctionné dans le cadre d'une tradition, probablement, mais elle a développé sa propre voix.
Est-ce qu'on a des traces, justement, sur l'origine de ces développements et de cette particularité? Comment cette personne incroyable, qui ne faisait pas que de la musique, comme on l'a dit.
Bon, elle a toujours dit elle-même que... Le topos de moi, je ne suis rien, je connais pas la musique, ni le latin, je suis juste un vaisseau, et tout ça passe par moi, mais c'est pas de moi. Et bon, beaucoup de créateurs au Moyen-Âge ont parlé comme ça, un peu pour ne pas mettre
mettre en avant.
En avant. Mais évidemment, elle avait un énorme talent, mais aussi elle avait la puissance. De faire documenter ses œuvres. Et ça, c'est très exceptionnel. De faire un manuscrit de musique au XIIe siècle n'était pas facile. C'était quelque chose de très, très cher, difficile, un travail de plusieurs personnes pendant des années. Et il a fallu être quelqu'un connu, quelqu'un apprécié, quelqu'un même très célèbre. Pour mériter un manuscrit. Et comme elle est devenue, elle était très âgée quand elle est morte, elle est devenue une espèce de celebrity dans son temps. Elle était très célèbre, même puissante vis-à-vis l'Église et aussi vis-à-vis les autres monastères. Sa voix a été écoutée.
Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'était une femme. Aujourd'hui, ça paraît évidemment, mais il faut repenser qu'à l'époque, la musique était quand même l'apanage des moines et des chants des troubadours. Alors, c'est vrai qu'on en a fait un peu après ce qu'on veut. C'est toujours avec le temps, donc une figure un peu féministe, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait non plus... C'était les compositrices étaient légion à l'époque.
Il y avait des compositrices, ça c'est sûr. Le problème, c'est la documentation. Parce que... Tous ces genres de musique ont été transmis oralement. Il y avait la tradition orale qui était extrêmement forte. Et c'est passé dans la tradition écrite. Le problème, c'est que la technologie d'écriture était plutôt dans les mains des hommes. Et des scriptoria, des monastères où il y avait la technologie pour faire un livre qui était assez compliqué à l'époque et difficile. Et on ne sait pas, par exemple, si dans le monastère de Hildegard, près de Bingen, s'il y avait un scriptorium dans le monastère. On ne sait pas. C'est possible que les livres ont été écrits dans d'autres monastères. Mais en tout cas, que les femmes ont créé les œuvres, ça c'est sûr. Il y avait même, il y a quelques années, il y avait une exposition dans plusieurs musées à Bonn et à Essen, une grande exposition sur l'art liturgique des monastères pour les femmes, entre le XIIe et le XVe siècle. Et c'était étonnant, la quantité de créations faites par les femmes à cette époque-là.
Qu'est-ce qui faisait que finalement elle plaçait la musique sur une sorte de piédestal? Elle aurait dit « La musique est la forme la plus élevée de l'activité humaine, elle est le miroir de l'harmonie des sphères célestes et des cœurs angéliques. » Dans son activité, comment déjà à cette époque on donnait une telle valeur à la musique? Comment vous l'expliquez?
Bon, c'est un sentiment qu'on entend souvent. À l'époque, c'est un sentiment néoplatonique qu'on entend... surtout quand on parle des artes liberales, les arts libéraux, comme avec la musique, il y avait tout ce qui concerne les numéros, astronomie, géométrie, arithmética et musique font partie de la même école. Et c'est le quadrivium, on appelle ça. Et bien sûr qu'astronomie, c'est le numéro qu'on peut voir en mouvement. Et la musique, c'est le numéro qu'on peut voir en mouvement en écoutant. Ça veut dire que la musique est très proche à l'astronomie. Et c'est pour ça qu'on parle de musique des sphères. Mmh. Et la relation harmonieuse entre les planètes, les étoiles, mais aussi entre les tons et les voix humaines qui chantent les mélodies.
En quoi sa musique était assez unique, ce qui est fascinant, c'est la subtilité des enrichissements fleuris qu'elle ajoutait à la ligne mélodique, ce genre de choses. Comment vous voyez aujourd'hui rétrospectivement cette particularité, ce style tout simplement? Cette particularité de ce style?
Oui, il ne faut pas oublier que dans le monastère de Hildegard, comme dans tous les monastères, on a chanté pendant des heures, chaque jour. De l'année, le chant grégorien, liturgique, les psaumes, les antiennes, la messe, toujours, chaque jour, le même style de chant. C'était la base. Et ce que Hildegard a créé était ajouté. C'était une création ajoutée à quelque chose de très ancien et aussi un peu monolithe, qui a été toujours chanté chaque jour. On avait, on était comme monial, l'âge de 8 ans, l'âge de 9 ans, déjà au monastère. On a entendu les mêmes chants chaque jour de la vie. Il n'y avait pas de vacances, ni...
Le dimanche.
ni dimanche. Chaque jour. Mmh. Et les bénédictines chantent chaque semaine tous les 150 psaumes. Ça veut dire que 52 fois par an, on entend tous les psaumes. Ça veut dire les mêmes textes, dans le même ordre, avec les mêmes mélodies. Et ça peut former aussi le cerveau, la réception à la musique. Ça devient une espèce de, par la répétition, une espèce de mantra, quelque chose qui est toujours la même. Et quand Hildegard ajoute des chants qui sont, qu'elle a créés, elle a créé aussi les textes. Et le latin de Hildegard est aussi étonnant. C'est un langage un peu osé.
Est-ce qu'on était conscient, on a des traces, des traces écrites, ou de l'importance quasiment révolutionnaire de cette façon justement de composer différemment, de rajouter? Est-ce qu'on, elle a tout de suite été perçue comme quelqu'un qui... vous avez dit finalement c'était une celebrity, c'est quelqu'un de personnalité, mais peut-être par d'autres biais que la musique. Est-ce que...
Oui, ça n'a pas commencé tout de suite. Et, elle était...
Ça choquait ou pas? On sait si ça choquait, cette façon d'aborder la musique différemment?
Oui, c'est sûr que ça choquait, oui. Mais comme la vie musicale n'était pas organisée autour des concerts comme aujourd'hui, il a fallu aller au monastère de Hildegard pour entendre ses propres œuvres. Mais bien sûr, il y avait des voyageurs qui ont parlé, des moines qui ont visité. Elle était aussi très bien... connectée dans le monde ecclésiastique avec, par sa propre famille. Elle était liée aux plusieurs évêques, aux personnalités dans l'Église. Elle n'était pas une simple...
Oui, c'était pas quelqu'un d'isolé qui était dans son coin,
elle
pas du tout.
Pas, elle n'était pas une simple femme.
Elle avait un bon réseau.
Elle était un excellent réseau. Elle a fait sans cesse le networking qu'il faut faire parce qu'elle avait un programme, c'était de faire construire un monastère qu'elle a fait dans la deuxième moitié de sa vie. Elle a quitté le monastère où elle a vécu comme jeune femme avec d'autres sœurs. Elle a fondé sa propre monastère à peu près 30 km de distance au bord du Rhin. Et bien sûr, elle a trouvé l'argent et le soutien pour faire construire un énorme monastère qui n'est pas simple. Et elle a appuyé sur sa famille, mais aussi les connaissances par la famille dans le monde ecclésiastique. Tout le monde a vu que c'était un personnage exceptionnel. Son projet était aussi exceptionnel. Elle était aussi acceptée par le pape. Parce qu'au début, avec ses écritures mystiques, c'était un peu dangereux même pour elle. Parce qu'elle a écrit des choses où c'était, il ne faut pas oublier que c'était l'époque des cathares, des hérésies dans l'Église, le danger de ne pas être dans le bon chemin. Mais elle a osé dire publiquement ses visions. Et... ces visions ont été collectionnées, écrites dans un livre, et le pape, en visite à Trèves, a lu ces visions pour donner son opinion. Par hasard, ce pape était un ami d'un ami.
Toujours les connections.
Parce que Bernard de Clairvaux était aussi quelqu'un connu par Hildegard. Et Bernard de Clairvaux était, je pense qu'il était le professeur du pape. Et le pape a dit, je trouve ces visions sont authentiques, il faut les admirer. Et comme ça, Hildegard n'était pas déclarée hérétique, elle était acceptée par l'Église. Et bon, les portes étaient ouvertes en ce moment-là.
On a beaucoup de traces écrites, de témoignages de cette période-là.
On a ses lettres, oui, parce qu'elle a écrit souvent aux grands, Elle a écrit des lettres à Bernard de Clairvaux, à Aliénor d'Aquitaine, plusieurs papes, l'empereur d'Allemagne. Elle était vraiment une voix écoutée. Elle a donné son avis librement. Elle était, par exemple, totalement contre les cathares. Tout ce qui concerne les cathares, pour elle, c'était quelque chose à punir sans pitié.
Est-ce qu'on sait la manière dont elle se percevait elle-même ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une société où tout est cloisonné. On a des artistes, des hommes politiques, des boulangers, etc. Elle, de par sa vie, cette façon de communiquer avec tout le monde et les grands de ce monde, d'être dans la religion, mais aussi dans la musique, dans des choses vraiment très différentes. Comment elle se percevait elle-même ? Est-ce qu'elle était consciente de la puissance ? Vous avez parlé de puissance qu'elle avait et de l'aura qu'elle avait aussi ?
Je pense, oui. Oui, c'est difficile à imaginer qu'elle n'était pas consciente, même si elle dit toujours « je suis rien, je suis une pauvre femme ».
La fausse modestie, vous pensez?
Oui, oui, tout le temps. Mais c'était normal pour un monastique de cette époque de ne jamais dire quelque chose sur la personne. Mais c'est toujours « moi, je suis ici en fonction de », mais ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle par moi. Elle était très consciente de ne pas dépasser les limites, mais elle savait très bien qu'elle était puissante. Elle a même fait des voyages en bateau sur le Rhin, très âgée, 78 ans, 79 ans. Elle a visité des villes comme Mayence et Cologne pour prêcher, pour parler aux gens de la corruption dans l'Église. Elle a eu vraiment... Elle était dans une position de ne pas avoir peur des grands de l'Église. Elle a dit des vérités. Et elle était assez célèbre, très célèbre dans cette région et assez célèbre d'ailleurs.
Donc comme vous l'avez dit aussi, dans son œuvre, il y a aussi un drame liturgique.
Oui.
Ordo Virtutum.
Oui.
Le jeu des vertus, donc qui comporte 82 mélodies, qui met en scène les tiraillements de l'âme entre le démon et les vertus. Quelle valeur vous donnez à ce drame,
On ne sait pas comment c'était joué. c'est évident que c'était joué, parce qu'il y a des rôles pour les différents caractères, il y a un drame, il se passe quelque chose. Ce n'est pas forcément liturgique. Je ne peux pas imaginer ça pendant la messe ou pendant les offices. C'était probablement pour... un événement, soit la dédication de la nouvelle église, je ne sais pas.
On a des traces d'écrits d'elle ou d'autres sur ce drame?
Non, ça fait partie d'un cycle de visions qu'elle avait, qui s'appelle Sivias, qui veut dire « il faut savoir le chemin ». Il faut connaître le chemin. Mais c'est le voyage de l'âme, quoi, entre... une vie comme il faut et la vie du monde, la vie mondaine tout ça est représenté par le diable, bien sûr. Et dans ce drame, tout le monde chante sauf le diable. Le diable ne chante pas, il parle, il a seulement des mots. Et même dans le manuscrit, il y a le mot strepitus, qui veut dire le diable dit ses mots avec une voix forcée.
Alors comme vous l'avez dit, donc elle est née en 1098, elle est morte en 1179, donc 12e siècle. Comment sa musique a traversé les âges, a traversé les siècles? Est-ce que il y a eu des moments où on l'a complètement oubliée, elle est revenue à la mode, on sait quel rapport tous les grands compositeurs ont eu avec son œuvre jusqu'à aujourd'hui?
Oui, c'est très intéressant parce que, bien sûr, à la fin de sa vie, il y avait déjà des proches qui ont commencé le processus de faire la sanctification. Et tout le monde savait très bien, pour faire ça, il faut collectionner les œuvres, il faut collectionner les témoins, il faut une masse de matériel pour présenter devant le comité, pour avoir la permission. Et on était déjà à la fin de sa vie en train de faire les manuscrits et d'écrire les choses qui étaient probablement transmises dans notre tradition orale ou plus, dans une façon plus informelle. Mais à la fin de sa vie, il y avait une production de livres incroyables. Aussi avec les illustrations, il y a des peintures dans les livres qui sont étonnants. Y inclut la musique. Bon, elle est morte en 1179. Et après, les livres sont passés dans la possession du monastère qui a été détruit pendant les guerres de religion. Le monastère a été totalement détruit au XVIIe siècle. Et ces manuscrits sont passés dans les différentes bibliothèques de l'État ou à l'époque, bibliothèque royale. Et plusieurs manuscrits ont été perdus. Mais il y avait, par exemple, au XVe siècle, une copie faite par quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, d'un de ces manuscrits. Et il y avait au moins trois manuscrits de musique. Il nous reste aujourd'hui deux et quelques fragments. Et un des manuscrits se trouve en Allemagne. Ça fait partie d'un énorme livre de 400, oui, c'est presque 900 pages, avec ses œuvres principales et la musique à la fin. Et il y a un autre livre qui se trouve dans un monastère en Belgique. Même chose, copie, faite pour les moines en Belgique au XIIe siècle. Et ce sont les deux manuscrits qui ont survécu. Le fait que Hildegard était si célèbre a garanti que ces manuscrits n'ont été pas déchirés, utilisés pour autre chose.
On sait si certains compositeurs se sont penchés sur son sujet.
Pas vraiment. Pour la musique, c'était vraiment une chose...
Anecdotique.
Musique. Elle était plutôt connue pour ses visions et aussi ses écritures sur la médecine, ce qu'on appelle, elle appelle physica, comment fonctionne le corps humain, comment guérir les gens malades, que sont les remèdes qu'on peut faire, y inclut les pierres précieuses.
Et pas la musique.
Mais la musique était un peu à la fin. On a toujours mis la musique à la fin.
Alors, à quel moment son nom est revenu sur le devant de la scène musicale et dans quelles circonstances ? Parce que c'est un peu flou. Oui. Alors, c'est vrai que tout ce qui est musique ancienne, etc.,
oui, oui.
Il y a eu une grosse mode deuxième partie du XXe siècle. Oui. Mais est-ce qu'on sait exactement comment tout a recommencé?
Bon, oui, plus ou moins. Ça dépend beaucoup de quelle scène vous parlez. Si vous parlez de la scène de l'Église, elle était assez connue. Il y avait des éditions fin du XIXe siècle. Dans les années 20, on a déjà essayé de chanter le drame. Ses œuvres ont été vues un peu comme chant grégorien, mais pas vraiment très bien fait, un peu...
La scène musicale s'intéressait pas énormément.
Et ça a resté à l'Église, en Allemagne. Plutôt une chose locale de l'Église en Allemagne. Mais, et bien sûr, les monastères ont été évacués au XIXe siècle. Et le monastère de Hildegard, qui a été détruit déjà au XVIIe siècle, après la sécularisation, on a essayé de refaire un monastère qu'on appelle le monastère de Sankt Hildegard. Ça veut dire que c'est à elle maintenant. Mais c'était construit fin 19e siècle, près de Bingen. C'est pas une église du Moyen-Âge du tout. Et là, on a commencé à chanter ses œuvres. Les sœurs de ce monastère.
C'était en quelle année à peu près, ça c'était...
Bon, le monastère a été fait fin 19e, vers 1870, je ne sais plus exactement la date, mais on a recommencé à chanter un peu, ajouté à la messe peut-être un chant, comme ça.
Et ça restait vraiment...
En honneur de Hildegard, mais ce n'était pas vraiment une passion. Et puis, dans les années 60 du 20e siècle, on a fait une édition. Les sœurs de son monastère ont fait une édition de ses œuvres complètes.
Donc c'est elles finalement qui sont à l'origine
de
cette résurrection.
Voilà, mais cette édition avait des problèmes, c'était pas tout à fait fiable. Mais les premiers concerts et des disques qu'on a eu dans les années 70 et après ont été faits en utilisant cette édition. Et puis, dans les années 80, on a commencé de voir le manuscrit de nouveau, de voir est-ce que c'est vraiment comme ça, non, de faire les recherches.
Alors justement, vous et votre ensemble, comment vous avez travaillé par rapport à ça, par rapport au manuscrit, par rapport à toute la partie de recherche?
Oui. Bon, on a eu beaucoup de... on a eu la chance de travailler avec des historiens, des philologues très versés dans les textes de Hildegard et aussi dans l'interprétation de la notation de ces manuscrits. Je suis allé pour la première fois au début des années 80 à Wiesbaden, où le grand manuscrit de ses œuvres est dans la bibliothèque. Et c'était avant la période où il y avait des facsimilés. Tout est en ligne maintenant. C'est totalement accessible, mais c'est difficile à imaginer. À l'époque, c'était très, très difficile de voir la moindre chose. On a travaillé avec des photocopies de mauvaise qualité. Noir et blanc. C'était horrible. Mais on a utilisé les visites à la bibliothèque pour corriger, pour voir qu'est-ce que c'est vraiment. Et nous avons fait nos éditions selon ces visites à la bibliothèque. Et on a commencé en 81, fin 81, on a commencé vraiment le travail. C'était presque au même moment, en Angleterre, il y avait un autre ensemble, Gothic Voices, qui avait fait... aussi un disque de Hildegard, qui était un des disques les plus vendus du monde, surtout de sa musique. C'est toujours en vente, ce disque, qui a maintenant plus de 100 ans. Et puis, on a commencé le projet, l'intégrale, qui a duré 18 ans. Et puis après la mort de ma partenaire, Barbara Thornton, on a un peu coupé le projet. C'était aussi la période où il y avait moins d'intérêt pour Hildegard parce qu'il y avait une surproduction. Il y avait trop de disques.
Il faut préciser que voilà, il y a une période quand même où cette musique-là était...
Oui,
voilà.
Oui, et surtout,
quand on y repense rétrospectivement.
Surtout en 98, 99, il y avait... Je pense qu'en 2 ans, on a eu une trentaine de disques sortis. C'était la période aussi de surproduction de tous les disques, surtout de musique médiévale. Il y avait tout et trop. Et après, il y avait le dessert. Mmh. Il n'y avait pas grand-chose après.
Donc, vous avez décidé de reprendre ensuite là.
Oui, c'est la sanctification de Hildegard qui m'a poussé de reprendre contact avec la maison de disques. Mmh. Parce que je savais, c'est un peu de médiatisation, on va
peut-être permettre stimuler, de boucler,
hein. Peut-être, parce que il manquait que 10 chants pour l'intégrale de Hildegard. C'est dommage, on a fait 65 chants, il manque 10 chants. Ouais. Et ça serait quelque chose pour la maison de disques aussi de dire, voilà, on a l'intégrale de Hildegard von Bingen, c'est une compositrice essentielle en Allemagne aussi, le premier, elle a fait la première opéra. Mmh.
Oui. Donc cette intégrale, vous en êtes à quelle, vous pensez la finir
Bon, si tout marche bien, on va commencer en novembre prochain d'enregistrer les derniers 10 pièces qui manquent.
Comment dans votre parcours de spécialiste de musique ancienne médiévale, vous voyez cette œuvre, quelle place elle occupe dans une vision globale de la musique à cette période-là? Vous qui maintenant la maîtrisez, c'est une œuvre dense, dont vous avez dit, de 75 pièces à peu près, qui vit avec vous maintenant depuis pas mal d'années. Quelle place vous lui donnez?
C'est unique. Y a peu de personnalités comme Hildegard, surtout au XIIe siècle. On a bien sûr les troubadours. Je suis sûr que les troubadours ont été aussi... très intéressant, très aussi puissant dans leur culture. Le problème avec les troubadours, c'est qu'ils étaient des poètes, des individus qui dépendaient totalement des aristocrates, de leur scène, de leur monde. Et Hildegard était vraiment encadrée dans un monastère. Elle avait beaucoup plus de puissance derrière elle pour faire la documentation. Le problème avec les troubadours et les trouvères aussi, c'est que les manuscrits qui contiennent leurs œuvres datent d'une période après leur mort. On a des manuscrits fin 13e siècle, 14e siècle, pour les poètes qui vivaient au 12e siècle. Et il y a une longue distance entre la mort de chaque poète et le manuscrit. Mais avec Hildegard, on a des manuscrits qui ont été créés quand elle vivait toujours.
On sait s'il y a encore des documents, justement, la concernant, qui existent, mais qui sont perdus ou autres. Comment est-ce qu'on... Il y a encore des découvertes régulièrement
à son sujet. Il y a beaucoup de choses perdues. Oh là là, il y a des choses... Il y a des manuscrits perdus. Beaucoup de choses qui sont perdues pendant la Deuxième Guerre. Parce qu'il y avait des manuscrits dans les bibliothèques, dans les grandes villes en Allemagne. On les a évacués pour échapper des bombardements. Et bien sûr, les manuscrits qui ont été envoyés quelque part pour être à l'abri des bombes, beaucoup sont perdus. Et on ne sait pas s'ils étaient brûlés, s'ils ont été volés, si les manuscrits se trouvent aujourd'hui dans les bibliothèques privées. En Chine ou au Japon, aux États-Unis, on ne sait pas, mais c'est possible.
Est-ce que vous, dans ces 75 chants, vous en avez un ou deux qui vous tiennent plus à cœur, que vous placez un peu
au-dessus?
C'est difficile de choisir.
Difficile. Parce qu'on a fait... le projet, c'était principalement le projet de Barbara Thornton, qui a dirigé l'ensemble de voix de femmes. Et moi, j'ai dirigé l'ensemble de voix d'hommes. Parce que Hildegard a fait aussi des chants pour les moines. Elle était... les moines des monastères voisins ont demandé à Hildegard de faire les chants pour leurs propres saints. Et elle a bien sûr fait. Mais elle a surtout fait des chants pour Sainte Ursule et aussi le saint patron de sa propre monastère qui était Rupert. Alors Rupert est... et Ursul sont parmi les plus grands. Bien sûr, il y a aussi Maria qui a une figure très importante dans cette œuvre.
Donc vous allez finir d'enregistrer ces chants en novembre. Quels sont les autres projets que vous avez, Benjamin Bagby, avec votre ensemble Séquentia?
L'autre grand projet en ce moment, c'est l'enregistrement d'un programme qu'on a de musique de Paris pendant la même période, juste après la mort de Hildegard, fin 12e, début du 13e siècle, où il y avait autour de Notre-Dame et les universités et le monastère de Saint-Victor, qui était là où est maintenant le Jardin des Plantes. il y avait des poètes et des musiciens exceptionnels qui ont créé une musique moderne à cette époque-là. C'était vraiment un ensemble intercontemporain du XIIe siècle, avec des textes incroyables en latin, très liés aux étudiants au milieu des professeurs et des théologiens de l'époque. On appelle ça, depuis le XIXe siècle, « École Notre-Dame ». Mais pour dire la vérité, on n'a pas une trace d'une école Notre-Dame. C'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt « Événement Notre-Dame ».
Vous avez fait des recherches, vous avez trouvé des documents incroyables pour arriver à ce projet ?
Oui, alors les documents sont connus. Le problème, c'est comment on les interpréter.
Toujours.
Les manuscrits, oui, voilà. Il y a trop de documents, il y a une énorme quantité de musique qui a été créée. Le problème, comme toujours, c'est que les manuscrits datent d'une période après. Alors, ils étaient faits au milieu du XIIIe siècle, quand cette musique n'était plus pratiquée. Mais c'était déjà la musique ancienne.
Bien, et bien donc, nous attendons avec impatience la fin de cette intégrale Hildegard. Merci Benjamin Bagby.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.